Le prochain 25 minutes, par contre, on va le passer avec mon ami Ray Lalonde, l'excellent Ray Lalonde qui... On a beaucoup de sujets. On va parler évidemment des succès des Golden Knights de Las Vegas qui attendent le gagnant de cette série-là, des Capitals et de Lightning. C'est 0-0 après une période à Washington. Je pense qu'il y a eu 6 tirs au but pour le Lightning, 8 pour les Capitals. Les Capitals doivent gagner le match, c'est à domicile. Match 7, s'il y a lieu, c'est à Tampa, c'est mercredi. Et il y a plusieurs des gens qui nous ont appelés plus tôt qui disaient que les Capitals étaient pour gagner. Alors, j'ai hâte de voir ça. Mais les Golden Knights, eux autres, attendent. Ray Lalonde aussi attend. Il est là. Salut, Ray.
Salut, Derek.
Écoute, Ray, juste avant d'embarquer dans les Golden Knights, là, je parlais avec Alex Agostino plutôt de Robinson Cano. Robinson Cano a été suspendu la semaine dernière. 80 matchs pour enfreint à la politique conjointe antidopage entre le baseball majeur et l'association des joueurs. Sa suspension lui coûte 11 millions. Pourquoi? Parce que c'est 80 matchs dans un contrat de 240 millions de 10 ans. Et donc, il perd 11 millions. Mais l'équipe, les Mariners, perdent un joueur qui ont payé très cher pour avoir. Et Ray, tu le sais, lorsque tu te fais pincer comme ça au baseball, tu ne participes pas aux séries. Tu n'as pas le droit de participer aux séries. Les Mariners essaient de se classer en série. Et s'ils le font, ils aimeraient bien ça, avoir leur joueur étoile, le deuxième but. Ma question pour toi, est-ce qu'on pourrait voir le jour où ces contrats-là au baseball pourraient être annulés? J'explique. Tu te fais pincer comme ça, est-ce que la Ligue, l'association des joueurs un jour, est-ce que tu penses qu'ils pourraient être en accord, comme un accord, pour que les contrats soient annulés, oui. Dans le cas d'un... Penses-tu que ça, on pourrait aller vers ça?
Je pense que oui, Derek. La question qui est d'abord importante, c'est que les Mariners ont dépensé 240 millions, ils ont investi 240 millions en Robinson Cano avec l'espoir que ce gars-là allait être l'artisan de succès et possiblement même de l'atteinte de la Série mondiale. Alors, ils se foutent un peu du 11 millions économisé, eux autres, là, parce qu'ils avaient besoin du joueur pour gagner des matchs, vendre des billets. C'est de l'argent qui se récupère facilement. Ils avaient investi en lui, croyant qu'il allait être le pilier de cette équipe-là. Et là, il rate une demi-saison complète, 80 matchs et littéralement une demi-saison, et les séries. Et les Mariners ont un club qui est compétitif, qui espère y arriver, atteindre les séries de fin de saison. Alors, ils sont perdants, là. Et c'est pas une question d'argent dans ces situations-là, c'est une question de l'image de l'équipe. Oui. Lui fait passer les Mariners comme une organisation amoindrie à cause de ses décisions, son jugement et ses consommations antérieures. Oui. Peu importe quel qu'il soit, comment lui l'explique là, ou non, là, qu'il était au courant ou qu'il était pas au courant. Moi, je pense qu'on est proche du jour où les ligues professionnelles, la NFL, la NBA, la NHL et MLB, et l'association des joueurs respectivement pour chacune des ligues, qui sont dirigées par des négociateurs, des fins analystes, mais aussi des gens qui veulent voir le succès commercial de leur représentation, c'est-à-dire les joueurs. Ils sont là tous ensemble pour collectivement rentabiliser cette industrie-là. Alors, quelque part, de plus en plus, ils collaborent mieux. Il y a encore des défis au moment où c'est le temps de renégocier les conventions collectives, Derek. Mais à la fin, il y en a de moins en moins de conflits de travail. Mm-hmm. Pourquoi? Tout le monde voit un peu le même objectif, c'est-à-dire la rentabilité, la profitabilité, l'argent. L'argent et plus d'argent pour diviser parmi tous les joueurs. Donc, c'est pas bon pour personne d'avoir des conflits. C'est bon pour tout le monde d'être ensemble dans la même veine. Et je pense que les contrats garantis pour les performances, c'est une chose. Contrats garantis, comme dans la société, comme dans toutes les industries du monde des affaires, pour un comportement inacceptable, consommation de substances, abus de quelconque, ça, à mon avis, ça va être une cause qui va être lancée dans l'équation lors des prochaines négociations. Puis à un moment donné, une ligue va dire, OK, nous, on est de concert avec l'association des joueurs et ces contrats garantis-là sont annulés à partir du moment que le joueur a fait un bris dans la confiance que l'équipe avait dans le joueur et son comportement.
Parce que toi et moi, Ray, on est assujettis d'un code de comportement. Dans toutes nos compagnies, on travaille. On doit se comporter d'une certaine façon. Mais d'abord, dis-moi, parce que j'ai fait partie de l'Association des joueurs et j'ai jamais compris pourquoi l'Association des joueurs offrait tant de résistance justement pour le dopage, pour les tests d'antidopage. Pourquoi l'association des joueurs veut se battre à ce point-là pour protéger les joueurs qui pourraient possiblement tricher?
C'est une bonne question et je pense que ça vient plus de la tradition de l'association des joueurs qui était un peu le défendant, le protecteur ultime, où malgré des erreurs de jugement, des fautes commises, un comportement même jusqu'à un comportement criminel, l'association des joueurs dans tous les sports confondus se rangeait toujours devant pour protéger le joueur jusqu'à temps que, tu sais, pour effectivement s'assurer que tant qu'il n'est pas prouvé coupable, il est innocent. Alors, mais de plus en plus, les relations sont meilleures avec les ligues. De plus en plus, Derek, le partage est plus grand. De plus en plus, l'association des joueurs doit aussi avoir une certaine légitimité et crédibilité. Faut qu'il y ait une intégrité là-dedans. Et quand t'as des joueurs qui sont pris en cause comme ça, on peut pas les défendre. On peut pas aller mourir sur cette montagne-là en se disant que je vais défendre ce gars-là à tout prix quand je sais très bien qu'il est fautif. Alors, pourquoi c'était comme ça? Je pense que c'était plus traditionnel qu'autre chose. Et là, on est dans les temps modernes et on est dans progression, si on veut. Et je pense que l'association des joueurs va établir son rôle. Les joueurs devront suivre comme tout salarié dans l'industrie.
Hey, c'est toujours fascinant de jaser avec toi. Vraiment, là, je m'attends jamais. Real Ray Lalonde, c'est ton compte sur Twitter. Je vous invite à aller le suivre. Ray, je me souviens quand tu as commencé, on avait 3-4 qui te suivaient sur Twitter. Je sais pas, t'es rendu à combien de milliers, là? Ben,
c'est pas tellement, mais je fais ça surtout pour le plaisir de pouvoir souligner des éléments qui méritent une certaine attention. Apporter une perspective, un contexte. Une opinion, et que ce soit le dossier de Nadal contre Zverev hier à Rome, match de tennis qui est un avant-goût de Roland-Garros, jusqu'au succès des Golden Knights. Alors pour moi, il n'y a pas de sport qui... Je suis un passionné de tous les sports, Derek. Ouais. Travailler dans le baseball, dans le basketball, dans le hockey, dans le football, et même jusqu'aux Jeux olympiques. Mais une chose que j'aime le baseball. J'aurais tellement voulu avoir une occasion de travailler pour les Red Sox ou les Yankees ou les Cubs. Ouais. C'est ces grandes marques mythiques. Mais à la fin, je suis un consommateur de tout ça. Alors donc, je suis passionné puis j'aime s'en parler.
Parle-moi donc des Golden Knights. Est-ce que c'est... On a déjà posé la question, parce qu'on a déjà parlé, toi et moi, il y a un mois, il y a deux mois. Le succès des Golden Knights, c'est toujours bon pour la Ligue nationale de hockey? C'est toujours bon pour l'image?
Je pense, hors de tout doute, que c'est le plus grand accomplissement de Gary Bettman des 10 dernières années. Ça fait 25 ans qu'il est là. Mais honnêtement... Avoir le courage d'aller à Las Vegas avec une équipe, mettre un prix, un standard, une barre à 500 millions de dollars US, aller créer une demande. Elle n'est pas venue la première fois. Il y avait juste deux villes candidates, Québec et Las Vegas, mais il y avait d'autres qui n'étaient pas loin, qui n'étaient pas tout à fait prêts à ce moment-là, en particulier Seattle et Houston.
Ils n'avaient pas soumis leur candidature, et leur dossier à ce moment-là.
Exact. Et le fait qu'il ait pu... concocter avec ses dirigeants de hockey une méthode, une approche pour les rendre compétitifs dès le départ. On n'aurait jamais cru qu'ils seraient si compétitifs. Il y a des gars qui ont joué vraiment à un niveau extraordinaire et ils ont beaucoup de chance et Marc-André Fleury. Alors là, c'est chance et Fleury, c'est deux choses. Parce que Fleury, c'est autre chose que la chance. Ça, c'est un avantage numérique. D'avoir Marc-André Fleury pour eux autres. Et on devrait être très fiers comme Québécois que Marc-André Fleury devienne historiquement là, ce qui va être la première grande étoile des Golden Knights de Las Vegas pour les 50 prochaines années. On va toujours se référer à Marc-André Fleury, c'est écœurant. Ce que je veux dire, c'est que Gary Bettman a réussi à mettre en place un modèle, une formule qui attire maintenant l'intérêt des autres, comme Seattle et Houston, comme Québec, comme Toronto et d'autres peut-être. Et dans tout ça, quand Las Vegas réussit, c'est la Ligue nationale qui brille. Parce qu'ils ont innové, ils ont été les premiers. Ça se reflète sur Gary Bettman et sur ces gens
d'hockey. Ils ont été les premiers à Vegas, mais ça fait pas mal paraître les autres 30 équipes. Ça fait pas mal paraître les autres. Non, parce qu'il y a des équipes, mettons qu'une équipe comme je connais, j'en nommerai pas, mais mettons qu'il y a une qui a 100 ans d'histoire, qui a pas fait les séries. Mais non, mais ça ne fait pas penser qu'il y a une autre façon, il y a peut-être une autre façon de procéder qui a fonctionné au moins cette année.
Moi, je pense que ça serait injuste de ne pas donner du crédit à Bill Foley, le propriétaire, George McPhee et Gérard Gallant.
Oui.
Parce qu'à quelque part, il faut aussi reconnaître que ces trois hommes, leader, deux gars de hockey et un gars d'affaires, ont pris les bonnes décisions. Ils ont été sages dans leur approche. Ils ont eu un an et quelques mois, Derek, pour se préparer. Tu sais, ça a été annoncé en juin 2016. Ils ont débuté en septembre 2017. Ils ont eu le temps de s'orchestrer correctement et de réfléchir non seulement au talent hockey, mais à tout ce que ça allait vouloir dire, la marque des Golden Knights. Alors, je reviens à ta question de départ. Es-tu bon pour le hockey? Ben oui, tout ce qui est bon pour une équipe comme ça rayonne la Ligue nationale. Et NBC doit être fier d'être associé. Ouais. Gary Bettman et tous les partisans. Parce que là, maintenant, c'est en train d'attirer des non-fans de hockey. Tout le monde veut avoir un peu un morceau des Golden Knights.
Oui, c'est sûr.
Non,
c'est
mais
sûr.
Parce que là, c'est comme cool, les Golden Knights.
Hey, je dois aller à pause. On doit aller à pause, oui, mais le 500 millions, là, ils l'ont déjà refait. Les Golden Knights, je pense, ils l'ont déjà refait. Et écoute, réponds pas. Pensez, on revient au retour, mais il y a un auditeur qui a posé la question, est-ce que le succès des Golden Knights de Las Vegas fait maintenant augmenter les frais d'expansion pour possiblement Seattle? J'ai hâte de voir ça, mais je pense 500 millions là, en une saison. Regarde, on a couvert le bill. On revient dans deux minutes.